Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission, Le Micro du Soir. Aujourd'hui, je reçois Simon Coulet-Khalifa, psychologue clinicien spécialisé dans les addictions comportementales. Parallèlement à son activité clinique, ses interventions et formations, Simon Coulet-Khalifa est le fondateur du programme de développement PURE, dont l'objectif principal, je cite, est d'aider un individu à choisir de manière durable ce qui compte plutôt que ce qui soulage à court terme. Simon Coulet-Khalifa, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être au studio de RFI Roumanie. Je suis ravi de vous avoir. On s'est rencontrés il y a pas très longtemps et ce que vous m'avez dit m'a particulièrement intéressé. Alors, je viens de le mentionner, vous êtes spécialisé dans les addictions comportementales. Quand nous nous sommes rencontrés, j'ai été intéressé surtout par ce que vous dites concernant notre lien aux outils numériques, un lien qui est devenu... parfois problématique, on va dire, et pas seulement pour les plus jeunes. Pourriez-vous nous en parler? Je crois que c'est dans vos consultations quelque chose qui est particulièrement fréquent.
Tout à fait. Bien d'abord, merci de me recevoir et merci pour cette opportunité de m'exprimer à ce sujet et de pouvoir avoir cette conversation avec vous aujourd'hui. Effectivement, donc, je suis psychologue clinicien spécialisé, comme vous l'avez dit, dans les conduites addictives, mais je m'occupe également du traitement des troubles anxieux, des troubles dépressifs et puis également de tout ce qui va toucher à la sphère cognitive, notamment avec tout ce qu'on va appeler troubles développementaux neurodéveloppementaux associés aux problématiques déficitaires de l'attention, notamment. Petite précision peut-être pour commencer. Déjà, je suis pas du tout anti-tech ou anti-progrès. Je pense qu'on a énormément de chance de vivre à notre époque. Et ce qui moi m'interpelle, c'est que les avancées technologiques, scientifiques, ont systématiquement été associées, indexées à une amélioration de nos conditions de vie, notamment depuis la révolution scientifique, puis industrielle, et donc ensuite cette fameuse révolution technologique. Ce qu'il faut bien noter, à mon sens, c'est que toute innovation produit un double effet. Il y a un gain fonctionnel. Typiquement, on pourrait citer l'accès au savoir, un accès à la communication également. Mais il y a également donc un deuxième effet, à savoir la reconfiguration cognitive et comportementale, ce qui va de fait induire des effets sur notre rapport au monde, notre rapport aux autres, mais également notre rapport à nous-mêmes.
Je me rappelle que quand on s'était rencontrés, on avait précisément parlé de ça, que cet aspect-là, c'est-à-dire l'autre côté moins positif des nouvelles technologies, est pas suffisamment. Enfin, on en parle de plus en plus, hein, notamment avec l'interdiction des réseaux sociaux en Australie et en France jusqu'à l'âge de 15 ou 16 ans. Donc là, c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un problème de santé publique. Mais comme vous le dites, hein, on n'est pas anti-tech, vous n'êtes pas anti-tech, mais vous vous intéressez au côté plus négatif de tout ça.
Absolument, absolument. Et on pourrait peut-être illustrer nos propos avec un exemple historique, à savoir celui de l'imprimerie, qui a démocratisé donc typiquement l'accès au savoir et qui au même moment a externalisé en partie notre mémoire et qui nous a amené de fait à modifier de manière assez profonde nos modes de communication. Donc on voit qu'il y a toujours quelque chose que l'on donne et quelque chose que l'on gagne et quelque chose finalement qui se transforme en toile de fond. À notre époque, il y a des choses qui sont quand même assez spécifiques et peut-être assez inédites. La puissance des outils qui sont déployés aujourd'hui, la vitesse et l'ampleur de leur diffusion. Et pour moi, c'est la question principale, l'absence ou le manque de cadre éthique proportionné à l'impact de ces outils sur la vie des individus. Et finalement, ce qu'on observe, c'est que depuis 20-30 ans, il y a eu un développement de technologies capables de capter, d'orienter, d'exploiter notre attention, sans formation préalable à leur utilisation et sans protection suffisante via notamment des régulations. On voit des choses se faire, vous l'avez mentionné, en Australie notamment, la mise en place de cette régulation sur l'âge de l'usage minimum en ce qui concerne les réseaux sociaux. Et c'est une avancée, c'est nécessaire, Est-ce que c'est suffisant? Certainement pas, mais c'est un début, il faut bien commencer quelque part. On a donc, en termes de constat, donc, des outils qui sont extraordinairement puissants aujourd'hui, dont l'usage peut malheureusement dériver. Et c'est là-dessus, j'imagine, que l'on va davantage échanger aujourd'hui. À mon sens, on pourrait peut-être essayer de distinguer, dans le domaine de l'éthique, deux dimensions. Il y a la dimension collective, scientifique, notamment en ce qui concerne le design de ces outils. La dimension collective également à l'égard des régulations, on en a parlé. Et également la dimension, donc, cette fois-ci, individuelle, en ce qui concerne l'usage de l'outil. Ça me renvoie à quelque chose qui est...
Ce dont vous vous occupez, vous. Hein, vous n'avez pas d'ambition de... Enfin, si, ça peut avoir... Vos conseils aux individus pour avoir des répercussions au sens collectif, mais vous vous occupez de l'individu.
C'est ça, absolument. Donc effectivement, il y a toujours cette discussion, ce débat autour de l'approche top-down ou bottom-up. Comment arrivent ces changements et ces ajustements? Très probablement qu'ils doivent être portés par la population. Et au même moment, on ne peut pas s'attendre uniquement de la population à une adaptation. Il faut également que les régulations et le design de ces outils absolument soient dans ce sens-là. La distinction centrale que moi je ferais finalement aujourd'hui, c'est ce que l'outil permet objectivement de faire et ce que nous faisons réellement de l'outil.
Je reviens à l'objectif de votre programme de développement qui est, je vous cite à nouveau, de restaurer un alignement durable entre intention, attention et action. Quand vous dites qu'effectivement, il va falloir regarder davantage un peu le design, hein, comment les algorithmes notamment sont développés, quand on voit comment les intelligences artificielles sont en train de se développer. Ils peuvent donner des résultats très positifs. Hein. Je pense notamment aux diagnostics médicaux. Est-ce que vous ne vous dites pas, quelque part, que c'est un peu peine perdue, que ça va être de plus en plus difficile à remplir cet objectif de s'aligner entre intention, attention et action, parce que je rejoins d'ailleurs là le livre de Bruno Patino, le président d'Arte France, qui dit que on est passé d'un moment où c'est notre attention qui est accaparée à ce que ce soit notre affectif qui se soit accaparé. Donc par rapport à ce que vous faites, à votre mission d'essayer de segmenter un petit peu les choses et d'aider l'individu, est-ce que vous ne vous dites pas de temps en temps, avec tout ce qui arrive déjà, que ça va être de plus en plus compliqué?
Mais de notre côté,
que votre mission est toujours plus nécessaire.
Alors oui, il y a un petit peu de ça, effectivement. Donc déjà, je vous rejoins tout à fait sur le constat, c'est-à-dire que le problème est de plus en plus complexe et il est de plus en plus propagé et propagé rapidement dans notre société. Les innovations vont beaucoup plus vite que les régulations et les changements qu'on essaye de mettre en place au quotidien. Et ça, on peut pas prétendre que ça n'existe pas. C'est vrai que je pense que l'oligarchie technologique et les grandes sociétés de la tech, ce qu'on appelle les GAFAM, mais pas que aujourd'hui, ont bien compris qu'ils travaillaient, ou plutôt qu'ils allaient opérer sur des dimensions individuelles d'un système affectif qui est vieux de 50 000 ans et qui ne s'est pas adapté aussi rapidement à la technologie qui, elle, je le disais tout à l'heure, pour moi, la révolution technologique depuis l'avènement d'Internet, on peut prendre les 30 dernières années. Donc c'est sûr que là, il y a quelque chose. Il y a un gap énorme entre les 30 années de développement technologique et les 50 000 ans d'un système affectif qui n'a sensiblement pas bougé. Peut-être que je pourrais donner quelques précisions sur ce qui est pur. Ce système, je l'ai conçu pour des personnes qui sont en perte de contrôle d'usages qui sont devenus automatiques, qui peinent à maintenir également leur attention, qui ressentent de la fatigue cognitive persistante à l'égard des usages numériques et qui constatent également l'écart entre ce qu'elles pourraient faire et ce qu'elles font réellement. Et plus largement, cette dispersion de l'attention au détriment de ce qui compte. Et ce sur quoi j'aimerais insister, c'est que on parle souvent de la fragmentation de l'attention, de la perte de temps. Pour moi, ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. Le coût ultime, c'est pas le temps, c'est pas votre attention. Pour moi, c'est la version de vous qui ne verra jamais le jour. C'est votre potentiel qui ne sera jamais exploité à cause des usages numériques qui sont maintenus par des boucles et qui vous empêchent d'accéder.
Ça peut effectivement davantage dissuader. Ouais.
Absolument, absolument. Donc, le système pur, c'est pas une appli de productivité, c'est pas une appli de limite de temps d'écran. Il y a des solutions qui existent déjà sur le marché et qui par ailleurs font ça très bien. Pur, c'est un système qui est designé en quatre étapes. Il y a dans un premier temps un diagnostic des usages et une clarification des objectifs de l'utilisateur. Il y a ensuite une seconde étape qui vise à déconditionner les comportements automatiques. Une troisième étape va être relative à la mise en place de règles et de routines qui sont adaptées aux intentions de l'utilisateur, pour enfin arriver sur une dernière étape, à savoir la stabilisation dans le temps de leurs usages. Ça, c'est une étape qu'on a souvent tendance à omettre, à occulter. Moi, dans mon domaine, dans le domaine de la psychologie clinique et plus spécifiquement dans le domaine des addictions et des addictions comportementales, il y a souvent quelque chose qui revient... Qui revient à savoir la mise en place d'un plan de prévention et de gestion des rechutes. À savoir, on sait que la vie peut nous amener à parfois...
Être résistant, disons.
Exactement, être fatigué, avoir des impératifs, du stress, de l'anxiété qu'on a du mal à gérer. Comment est-ce qu'on fait quand on dérive, parce qu'on peut et on va dériver très probablement, comment est-ce qu'on fait pour reprendre la trajectoire désirée? Donc voilà pour le système pur et ses quatre étapes. Et dans cet objectif, effectivement, je cherche ou j'aspire à ce que les utilisateurs puissent aligner l'intention et l'action par l'intermédiaire de l'attention qui est véritablement le gouvernail cognitif qui nous permet d'agir au quotidien.
Et dans ce programme, est-ce que, quand vous dites que c'est un potentiel qu'on est en train de perdre éventuellement, est-ce que, j'ai entendu ça notamment de neurologues et aussi de spécialistes comme vous en psychologie, donc ces experts disent, et je pose la question, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, que quand on n'utilise pas d'outils numériques ou même qu'on est simplement dans un état presque d'ennui, enfin qu'on ne fait rien, le cerveau est en état, je crois qu'on appelle ça de stand-by, et que c'est à ce moment-là que éventuellement des éléments du subconscient peuvent arriver à l'état conscient, c'est pour ça qu'on dit que la nuit porte conseil. Est-ce que c'est également quelque chose que vous prônez, c'est-à-dire une espèce de détachement total, pas nécessairement méditatif, mais de dire, si vous arrêtez, vous allez pouvoir faire que votre cerveau soit encore plus performant, quelque part. Vous êtes d'accord avec ça?
Ah oui, absolument d'accord avec ce constat, et j'irai même plus loin. Je pense que dans les grandes découvertes scientifiques, notamment, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le témoignage des personnes qui ont été à l'origine de ces découvertes, il y a ces moments eureka. Et ces moments eureka... ils arrivent, ils se présentent, ils se manifestent quand notre attention n'est pas dirigée vers quelque chose. C'est peut-être quand on rentre chez soi le soir et qu'on est en train de prendre le train ou les transports en commun et qu'on regarde par la fenêtre. C'est à ce moment-là qu'on laisse suffisamment d'espace à notre cerveau pour aller vers une exploration probablement inconsciente dans une certaine mesure, vous le disiez, mais pour aller vers une exploration qui mène finalement à l'identification d'une solution qui était présente et qu'on n'avait pas encore réellement saisie.
J'ai entendu également que l'une les meilleures choses, un meilleur massage cérébral qu'on pouvait faire, c'était de sortir de chez soi sans rien de connectable, connecté, et d'aller se promener sans but particulier, c'est-à-dire de se laisser aller, pas faire la promenade habituelle quotidienne, mais juste sortir de chez soi et se perdre.
Oui.
Vous êtes d'accord avec ça?
Ouais. Absolument, et vous savez, c'est même intéressant parce que je fais le parallèle, moi, à l'égard des thérapies comportementales et cognitives que j'utilise dans ma pratique. Il y a quelque chose dans ce qu'on appelle donc plus communément les TCC, qui sont l'acronyme, qui est l'acronyme, qui s'appelle donc la thérapie par l'exposition. Et la thérapie par l'exposition, c'est amener un individu à faire face à ses peurs en l'amenant à s'exposer à des situations qui sont anxiogènes pour la personne. Et typiquement, aujourd'hui, on pourrait se dire que de sortir sans son téléphone et de se balader sans but précis, ça peut être une exposition. Et donc, quelque part, ce que ça va venir faire en toile de fond, c'est renforcer l'individu en la croyance qu'il est capable de s'en sortir seul et de ne pas être dirigé, systématiquement guidé, soutenu par une aide numérique. Mmh.
Qui sont les gens qui viennent vous consulter précisément, qui ont pris conscience de... Donc, déjà, le fait d'aller vous voir, parce qu'il y a une prise de conscience de l'addiction, je dirais qu'il y a la moitié du travail qui est fait. Le problème, c'est que la plupart des gens se disent « bon, mais c'est comme ça, mais ma foi, c'est bien pratique, et puis voilà ».
Alors effectivement, il y en a qui quelque part acceptent une forme de défaite et qui se disent qu'ils ne pourront rien y faire. Donc là, il y a une forme de, comment dire,
d'acceptation
un peu passive de ce qui est en train de se passer. Et puis, il y a des personnes qui croient en leur agentivité, qui croient en leur pouvoir d'influence sur leur parcours, sur leur trajectoire. Et c'est ces personnes-là que je vais souvent recevoir dans mon cabinet, dans le cadre de ma pratique libérale. C'est souvent aussi des... Alors, j'ai également, de plus en plus, des jeunes d'une vingtaine d'années qui me consultent, alors notamment pour des problématiques attentionnelles, mais pas que, avec des problématiques accessoires de procrastination.
Ils sont très conscients de ce qui se passe, d'ailleurs, ces jeunes.
Ils sont conscients et en même temps... victimes de la perdition.
Ils le disent eux-mêmes qu'ils se sentent addicts.
Absolument, et victimes un petit peu de cette perte de sens et de cette difficulté à trouver du sens aux choses ou alors de difficulté à maintenir suffisamment l'attention longtemps pour aller chercher de la profondeur.
Et vous avez aussi des gens de, j'imagine, d'autres tranches d'âge, donc des adultes plus âgés qui viennent...
Bien sûr. Donc, de manière générale, moi, je reçois des populations adolescentes, jeunes,
principalement,
adultes.
Principalement, quand même. Oui, d'accord.
Oui, absolument. On va dire que la majorité des personnes qui me consultent ont entre 20 et 40 ans. Voilà. J'ai des personnes plus âgées que ça, j'ai des personnes également plus jeunes, mais disons que c'est plus la frange, la frange de la population que ce qui domine dans ma pratique. Je souhaitais revenir sur ce que vous me demandiez à l'égard de l'IA, parce que je trouve que c'est bien entendu un sujet d'actualité.
Avec plaisir, oui.
Alors, l'IA, ça complexifie le problème, on est bien d'accord, et en même temps, c'est une invention tellement incroyable et tellement pleine de potentiel, justement, à l'égard notamment des diagnostics médicaux, pour citer cet exemple. Mais, in fine, la question reste fondamentalement la même, à savoir où se trouve la frontière entre l'individu qui utilise l'outil et l'outil qui utilise l'individu. Et cette relation, bien sûr, elle n'est pas unilatérale. Il y a un échange, il y a une transaction, entre l'utilisateur et les acteurs. Encore une fois, on peut leur donner un nom, on les appellera les GAFAM, qui, eux, bien sûr, sont sur un modèle économique de captation de l'attention. Mais à mon sens, ce n'est pas peine perdue, dans le sens où l'humanité a toujours été confrontée à des transformations majeures. Ça, ce n'est pas nouveau. Et l'humanité a toujours su y répondre, parfois même de manière très créative. Le levier aujourd'hui, pour moi, c'est la prise de conscience de la population. On en parlait à l'instant, il y a des jeunes adultes, il y a des parents qui prennent conscience de l'ampleur des innovations technologiques et de la propagation de ces innovations technologiques et de leur perte de contrôle, notamment pour l'avenir de leurs enfants. Donc la prise de conscience, à mon sens, crée ou s'accompagne d'une demande. Et en ce sens, la solution est double. On revient sur la question de l'éthique. L'éthique au niveau collectif, où il va falloir à un moment donné des réformes au niveau du design, au niveau des régulations. Et une éthique qui est également comportementale, où là, il faut apprendre à utiliser au niveau individuel ces outils numériques.
Et est-ce que vous êtes, excusez-moi, je vous coupe, est-ce que vous êtes d'accord quand, si je vous dis qu'aujourd'hui, il faut arrêter avec cet adage, l'outil est neutre, ça dépend comment on l'utilise. Mais aujourd'hui, c'est faux. Je veux dire, c'est complètement galvaudé.
Bien sûr.
Non, l'outil, comme vous le dites très bien, ça me fait penser d'ailleurs à un ouvrage dont on avait parlé, je crois, avant cet entretien de Thomas Grimont-Pont, qui est venu à cette émission il y a quelques années. Qui a écrit un livre qui s'appelle Algocratie, le pouvoir des algorithmes, et qui, voilà, je me rappelle, on en avait discuté, et qui explique très bien comment les algorithmes sont créés précisément pour nous rendre de plus en plus, pour accaparer notre attention. Je crois même qu'il y a des experts comme vous, des psychologues, qui sont embauchés à la Silicon Valley pour faire que les gens restent toujours plus... D'ailleurs, Meta, Mark Zuckerberg, est inquiété en ce moment... parce qu'il est même attaqué. Bon, ça, c'est encore... on peut avoir un avis mitigé là-dessus, je ne sais pas. Il y a aussi une part de responsabilité de l'utilisateur et l'utilisatrice dans ce cas précis. Donc, je crois que les culpabilités sont un peu partagées. Mais bon, voilà. Excusez-moi, je voulais juste...
Non, mais vous avez raison.
L'outil n'est plus neutre. C'est pas vrai, quoi.
Non, l'outil n'est pas neutre par design. Il n'est pas neutre. Mm-hmm. Par design, il est fait pour... capter l'attention de l'utilisateur et faire en sorte que l'utilisateur reste le plus longtemps possible en interaction avec cet outil. Donc bien évidemment qu'il n'est pas neutre. Là où il y a un problème éthique à mon sens, c'est que l'utilisateur aurait dû être informé. Alors, on peut aussi mettre en cause peut-être une certaine naïveté de la part de la population, des individus, à savoir à quel moment on a pu penser que des outils allaient nous être d'une puissance, encore une fois, extraordinaire, allait nous être proposé, donné gratuitement, sans contrepartie. Et encore une fois, moi j'aime beaucoup cette notion de responsabilité individuelle parce que la responsabilité individuelle est du côté des utilisateurs qui peut-être n'auraient pas dû aborder et appréhender ces nouvelles technologies sans se poser de questions.
Oui.
Voilà. Mais elle est également, bien évidemment, du côté du design.
Surtout, je dirais.
Mais
ouais.
Bien évidemment. Et dans la Silicon Valley, vous l'avez dit, il y a effectivement des psychologues qui sont embauchés à des fins...
Ça vous le confirmez. Hein,
bien sûr, ouais. Bien, mais ça, c'est un fait connu. Enfin, les géants de la tech ne s'en cachent pas. Ils le disent, qu'ils embauchent des spécialistes dans les sciences comportementales, dans les neurosciences également, bien entendu, pour arriver à leur fin.
Pour revenir un petit peu dans le contexte où nous nous trouvons, nous sommes à Bucarest. On va en parler après, vous faites l'aller-retour entre Bucarest et Paris depuis quelques temps. Alors que ce soit en Roumanie ou dans plusieurs pays de l'Est, ce que je remarque, c'est que il y a un élan vers la modernité qui est très fort, et ça s'explique de par l'histoire du pays. On a envie d'oublier le passé et d'aller de l'avant. Ça se comprend, c'est très bien, mais on embrasse tout sans trop réfléchir. Certains d'ailleurs en profitent, hein, c'est un peu il y a pas de réflexion sur le mouvement tech. Il faut l'embrasser et point barre. Est-ce que vous ressentez ça? Est-ce que vous vous dites oula, j'ai beaucoup de travail, j'ai du travail à Paris, mais ici aussi, vu cet embrassement, encore une fois, des nouvelles technologies, sans trop réfléchir, même si je lis qu'il y a de plus en plus de questionnements, quand même, sur tout ça. Mais est-ce que vous avez aussi ce sentiment, je ne sais pas si c'est très objectif, que ici, particulièrement dans les pays de l'Est, on fonce dans ça sans se poser de questions?
Alors, vous avez raison, ce constat, je pense qu'on peut le faire en Roumanie et puis plus largement peut-être dans les pays qui sont, on va dire, assez récemment finalement sortis du communisme. Il y a une dimension historique qui est bien évidemment importante. La Roumanie, c'est un pays qui a connu la privation. par l'intermédiaire donc, du communisme. Et donc cette tendance à basculer dans l'abondance, par compensation, on pourrait dire.
Ça exacerbe, ouais.
C'est, absolument. C'est, pour moi, c'est un mouvement qui est compréhensible. C'est une réaction qui est mécanique, on pourrait même dire peut-être même épidermique. Quand on a été privé de quelque chose, par réflexe, on va aller, va aller dans, dans l'abondance. Alors, avant de retrouver un équilibre, parce que c'est peut-être aussi ça qu'il faut essayer de faire, c'est de peut-être dézoomer, prendre du recul et de comprendre qu'il y a un mouvement qui s'opère et que souvent, après une phase d'excès, on va tendre vers l'équilibre, on va réintroduire de la nuance. Plus largement, alors bien sûr...
Ça, vous le ressentez en France, j'imagine.
Absolument, absolument. Mais je pense que c'est intéressant parce que vous voyez, typiquement, on pourrait peut-être faire cette analogie entre le pays qui a été privé et qui reçoit en abondance les technologies numériques et qui bascule dans l'excès. Et peut-être, finalement, un constat plus large, à savoir... Dans les sociétés occidentales, il y a 20-30 ans, l'avènement d'Internet et puis tout ce qui s'en est suivi, on pourrait considérer également une forme d'abondance qui est arrivée. Et aujourd'hui, une remise en cause et une tentative d'aller vers la nuance, d'aller vers un équilibre au niveau des usages. Donc je pense qu'on va également l'observer en Roumanie. Peut-être que ça prendra un petit peu plus de temps. Il y a un élément qui est assez intéressant, je pense, en Roumanie, c'est la structure de la famille et l'importance de la famille qui reste l'un des piliers de la société. Et en ce sens, je pense qu'il y a une attention particulière de la part des parents à l'égard des enfants et à l'égard de ces générations qu'on peut effectivement complètement occuper avec, avec les outils numériques, mais pour lesquels on devrait également faire preuve de vigilance plus largement pour laisser l'espace, le temps à leur cerveau de se développer correctement.
Et ce que vous dites me fait penser aussi à, au fait pascal. Enfin, je ne sais pas si vous étiez en Roumanie pour les fêtes de Pâques, mais c'est vrai que c'est un moment important où on a un peu la sensation que tout s'arrête. Hein, oui. Si on envoie un mail, il se perd dans le cosmos numérique, et c'est pas mal. Donc pendant une semaine, voilà, on a la sensation que les gens sont en famille, avec les amis, évidemment, qui regardent leur téléphone portable, mais il y a une distance qui se fait naturellement par rapport à l'agenda chargé, et notamment trop chargé par les outils numériques.
Absolument.
Ça, c'est un, j'aime bien, moi, personnellement, quand j'en parle avec des amis roumains qui ne sont pas nécessairement religieux, qui ne sont pas nécessairement à la messe de minuit, pour leur dire que c'est précieux, ne serait-ce qu'en termes de temps, et on revient à ce qu'on disait, notre temps disponible de cerveau non connecté.
Bien sûr, vous avez raison, mais je pense que c'est quelque part, on pourrait qualifier ça d'un retour à l'essentiel. Et l'essentiel, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui a perduré, non pas sur des décennies, mais sur des siècles, parfois même des millénaires. La famille, les traditions, la culture... sont des choses qui sont essentielles pour l'équilibre d'un individu et il faut plutôt les cultiver et il faut plutôt y faire attention et ne pas s'en séparer complètement, même si au même moment, on est contraint quelque part de s'adapter à notre époque, à notre environnement, et ça passe par une utilisation des outils numériques et ça passe par un monde qui va très vite et un monde qui cherche à être toujours de plus en plus productif et de plus en plus compétitif.
Simon Koulet Khalifa, c'est une question que je me pose souvent et qui me paraît essentielle. Alors, je ne sais pas, vous allez me dire, ça reste entre nous, si vous êtes d'accord ou pas. Moi, j'ai l'impression que dans cette modernité, on ne se pose jamais la question suffisamment du bien-être, notamment du bien-être psychique. Est-ce que vous... en tant que spécialiste, ça vous frappe également que là, vous l'avez dit, la performance, le côté pratique, c'est ça qui est mis en avant, mais on se pose la question du bien-être, en fait, elle se pose presque jamais, et on en vient à devoir après consulter un spécialiste, parce que ben non, on se sent plus très très bien. Est-ce que vous, quelque part... voilà, est-ce que c'est une question légitime? Enfin, vous voyez ce que je veux dire?
Bien sûr, bien sûr. Oui, c'est une question légitime. Alors, je pense que ce que vous décrivez, c'est ce à quoi les individus aspirent, ils recherchent ce bien-être. Mais moi, j'aurais plutôt tendance à considérer ce bien-être comme des conséquences, comme une conséquence visible, désirable, mais qui ne doit pas être visée comme un objectif à proprement parler. Pour moi, ça découle plutôt d'une question, ou plutôt de la réponse à une question centrale que l'individu doit se poser et qui permet de dessiner justement une trajectoire, cette trajectoire vers le bien-être, à savoir une hiérarchie à faire entre ce qui donne du sens à votre vie et le plaisir immédiat, le recours à des palliatifs. Et entre ces deux choix, lequel vous faites, qu'est-ce que vous priorisez? Est-ce que c'est le sens que vous souhaitez donner à votre vie? Et donc, tout ce qui va être relatif au long terme qu'on va chercher à prioriser, la carrière, la famille, les relations, hein, et de fait, on pourrait incorporer cette dimension de bien-être également. Dans les addictions, le rapport est inversé. C'est le court terme, c'est la gratification immédiate qui domine systématiquement, au détriment du long terme.
Mmh. Quelles sont les autres addictions comportementales que vous traitez?
Alors, dans ma pratique, je reçois des patients qui peuvent manifester des conduites compulsives ou même parfois effectivement addictives. Si l'on parle des addictions comportementales, on pourrait citer les jeux d'argent. Alors ça, c'est assez, assez fréquent. On peut bien évidemment citer la pornographie, les réseaux sociaux, toutes ces choses qui finalement, en termes de design, sont sensiblement les mêmes choses. Et finalement, qu'on pourrait même rattacher à la consommation de substances, puisque les mécanismes neurologiques par l'intermédiaire desquels ces conduites se mettent en place, sont sensiblement les mêmes. On parle notamment souvent du réseau ou du circuit dopaminergique, le circuit de la récompense. Alors on met souvent l'emphase sur la récompense, c'est un circuit qui est en lien avec la motivation. Hein. C'est important de le souligner. Pour moi, l'addiction, qu'elle soit comportementale ou qu'elle soit à une substance, n'est généralement pas le problème en soi. C'est plutôt la tentative de résolution d'un problème, et souvent un problème de régulation. Ça peut être une tentative de régulation de l'humeur, ça peut être une tentative de régulation des émotions, par exemple de l'anxiété.
Il y a des causes plus profondes.
Absolument, ouais. Il y a des causes plus profondes. Un sentiment de vide, un isolement social, qui mène l'individu à chercher une compensation. Le problème avec les addictions comportementales, mais plus spécifiquement les addictions digitales, on pourrait dire, c'est que on a déployé des outils qui sont devenus indispensables au fonctionnement quotidien. Le travail, la communication. Et sur ces mêmes objets, on a mis à disposition des récompenses immédiates qui sont permanentes. Et en ce sens, on pourrait dire que c'est un petit peu la caverne d'Ali Baba du plaisir instantané, c'est-à-dire que vous avez un outil dont vous dépendez, hein, comme vous pourriez typiquement dépendre de votre voiture ou du tramway pour vous déplacer. Là, vous dépendez de votre téléphone pour lire vos mails, pour travailler, pour contacter, pour rester en contact. Et au même moment, vous avez sur cet outil une infinitude d'accès aux gratifications immédiates. Donc, en soi, les écrans et les nouvelles technologies n'ont pas créé ces vulnérabilités, mais elles les ont amplifiées et elles les ont accélérées. Donc, il y a deux relations qui sont à distinguer, mais qui sont finalement intriquées l'une à l'autre. C'est la dimension, ou plutôt la relation digitale et santé mentale, où là, ce qu'on observe souvent, et là, je m'appuie sur des données scientifiques et des articles scientifiques, on observe souvent des relations qu'on appelle corrélationnelles. Hein. Et l'autre relation importante, c'est le digital et la santé cognitive, notamment l'attention, on pourrait parler également de la mémoire, où là, les relations sont causales. Et cette distinction, elle est importante, puisque finalement, dans notre rapport au numérique, on est souvent dans des boucles d'entretien. À savoir, si vous n'êtes pas bien, on pourrait dire si vous êtes déprimé, hein, ou si vous êtes profondément anxieux, vous allez avoir recours davantage aux outils numériques pour tenter de compenser ce qui vous manque. Si, À l'inverse, vous allez, comment dire, vous immerger dans des comportements numériques à outrance, alors vous allez également pouvoir développer, ou en tous les cas être plus vulnérable, aux troubles mentaux, type troubles dépressifs, troubles anxieux, et alors TDAH, pas exactement, parce que le TDAH est un trouble neurodéveloppemental, et que
ça, c'est l'hyperactivité, non ?
Alors voilà, effectivement, c'est le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, mmh. et on peut même ajouter une composante avec ou sans impulsivité. Mais de fait, ce trouble est assez particulier, puisque s'il n'est pas présent depuis l'enfance, aujourd'hui, on ne considère pas qu'on peut avoir un TDAH dont les manifestations ne se sont observées qu'à l'âge adulte. Quoi qu'il en soit, ce qu'on peut dire, c'est que les comportements numériques peuvent mimer des symptômes que l'on retrouve dans le TDAH. Ça, c'est une certitude aujourd'hui. En termes de facteurs de vulnérabilité, on en parlait, je vous parlais des troubles anxieux, du trouble dépressif, du TDAH, même du trouble bipolaire, c'est-à-dire que une personne qui va se retrouver avec ses troubles mentaux, ses psychopathologies, on va observer chez ces personnes-là une tendance à l'addiction, qu'elle soit à des substances ou qu'elle soit comportementale. Ce qui est frappant aujourd'hui, c'est que, à mon sens, ce qu'il faut bien souligner, c'est que ces comportements addictifs, ce sont des stratégies de coping qui sont inefficaces. À court terme, elles peuvent soulager. À long terme, elles détruisent. Mmh. Et on le disait il y a déjà quelques décennies par rapport à l'alcool, à la cigarette, mais aujourd'hui, il faut bien comprendre que le constat n'a pas changé. C'est plutôt le vaisseau qui est utilisé pour ces addictions qui prend une forme différente, mais qui finalement mène au même résultat.
Mmh. Simon Koulé-Khalifa, on a encore quelques minutes. Dernière question. Moi, j'aimerais savoir comment vous faites pour, et je cite à nouveau votre programme, restaurer un alignement durable entre intention, attention et action. Vous, personnellement, quelle est votre hygiène de vie ? On a 2 minutes.
Alors, cette question me fait sourire parce que j'ai cette image dans la tête. Est-ce que
notamment vis-à-vis des outils numériques.
Absolument, absolument. Mais justement, je me dis, et c'est une question très pertinente, à savoir, est-ce que ce sont les cordonniers qui sont les plus mal chaussés, comme on le dit. Et c'est, encore une fois, je pense que cette question, elle est importante.
Parce que vous êtes très pris entre Bucarest et Paris, je sais, vous me l'avez dit.
Oui. Je suis très pris par ma vie professionnelle, par ma vie personnelle. Alors justement... Je réinvente pas la roue. J'essaye d'appliquer des principes simples, à savoir structurer mes journées, compartimenter mes temps, protéger certains espaces. Typiquement, le sport est pour moi quelque chose d'essentiel. À chaque fois que j'ai sacrifié le sport, je l'ai payé. J'ai aussi conscience du fait que ce qui fonctionne pour moi ne fonctionne pas nécessairement pour les autres. Et c'est en ce sens que le système pur que j'ai développé appuie sur la dimension de personnalisation. L'objectif, c'est à partir du diagnostic... Oui.
Revenons à vous.
Alors, comme je vous le disais, moi, c'est typiquement, vous voyez, essayer dans la mesure du possible, parce que parfois, on est un peu contraint de basculer d'un domaine à l'autre, mais dans la mesure du possible, c'est de compartimenter les temps. C'est-à-dire, plus spécifiquement, c'est quand je suis en consultation, je fais pas mal...
Pas de multitasking, comme on dit, hein.
Alors,
l'éviter, non ?
Exactement, ouais, l'éviter. Et essayer de structurer le poste de travail et l'environnement de travail pour éviter absolument le multitasking.
De faire plusieurs tâches en même temps.
Absolument.
Moi, j'ai utilisé...
Et ce multitasking, anglais, ouais. Vous avez raison de le souligner, c'est quelque part... Mais là encore, c'est une conséquence d'une surstimulation, bien souvent. Hein. On va multitasker parce qu'on est surstimulé.
En croyant gagner du temps.
Ouais. Absolument, ouais, voilà. Absolument. Donc voilà, si
donc, je bien peux... compartimenter, vous compartimentez bien.
Absolument. Ouais. Et ça passe par une identification de ce qui est important pour moi. Qu'est-ce que je cherche prioriser ? Qu'est-ce que je cherche
prioriser ? Et aussi prioriser. Le faire à un certain rythme, c'est-à-dire, voilà, pas se dire « Ah, mais j'aurai pas le temps », faire les choses... si elles prennent un certain temps, ben elles doivent prendre ce temps-là.
Absolument.
Enfin, je ne sais pas. Oui, hein, oui. Moi, c'est personnellement ce que j'essaie de faire. C'est précisément quand je sens que les choses s'accumulent, j'essaie de les faire. Et puis, s'il y a du retard, bon, ça dépend de quoi on parle. Mais,
bien entendu. Mais effectivement, plutôt se concentrer sur la trajectoire que sur les livrables systématiquement. Je suis d'accord.
Quand on peut, oui.
Oui, absolument. Je suis d'accord avec vous là-dessus.
Très bien, mais Simon Coulet-Khalifa, je suis ravi de vous avoir eu au micro du soir. C'était vraiment très agréable et j'espère précieux. Vos propos ont été et sont précieux pour nos auditrices et auditeurs. Auquel je souhaite un bon week-end où il y aura des promenades sans objectif particulier. Compartimentez bien votre temps, comme le dit Simon Coulet-Khalifa. Peut-être un site où on peut vous trouver, le programme Pure, on pourrait
absolument.
L'annoncer. Oui.
Alors, le site s'appelle thepureintent.com.
The Pure Intent en un seul mot.
Absolument.
.com.
Thepureintent.com.
D'accord. Et là, on trouve toutes les informations.
Toutes les informations relatives au programme qui va être déployé et dans un premier temps qui sera dans une phase de test par les utilisateurs.
D'accord, très bien. Donc, bien de l'avoir signalé. Merci Simon Coulet-Khalifa, chers auditrices, chers auditeurs. Bon week-end. À bientôt, week-end pour la côte. Au revoir.